On va commencer par la maison des idées.
Ouais, en panne.
En panne, ouais, c'est pas faux.
Là, ces temps-ci, on peut quand même se poser des questions. Hein. Bon.
Bah, en plus, moi, il y a un truc qui me bloque, c'est que je vois 3,99 et je quoi.
Oui, mais bon, je pense que les 3,99 vont être surtout, enfin, maintenant, vont être le standard de tout le marché, que ce soit chez DC ou chez Marvel, donc de toute façon, il faudra qu'on y passe. Mais c'est clair que. Ça nous, c'est un élément de plus pour pouvoir jauger de la pertinence ou pas d'un titre, quoi.
C'est clair qu'on y réfléchit à deux fois et on a moins tendance à vouloir tester quelque chose à 2,99. À 3,99.
Voilà. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai retenu bah, effectivement, le changement de titre et de personnage. Dans la série Black, enfin Daredevil, qui devient maintenant Black Panther, The Man Who Would Fear.
Voilà, donc effectivement, dans le crossover Shadowland qui se passe actuellement, vous avez effectivement Daredevil qui n'a plus le bon rôle de protecteur d'Hell's Kitchen, et c'est donc Black Panther qui reprend le titre. L'avantage, c'est que du coup, le titre reste à 2,99. C'est David Lees qui va l'écrire. Et donc, il va être au dessin secondé par Francesco Francavilla.
Ouais, qui est pas un mauvais dessinateur. Bon, maintenant, on va voir.
On a vu sur Zorro, Green Hornet, voilà. Notamment chez Dynamite.
Non, mais après, bon, on revient, c'est vraiment faire du vieux avec du neuf. Hein. Enfin, du neuf avec du vieux, ça va dans les sens.
C'est une tentative de relancer effectivement Black Panther avec un numéro 513 qu'il a jamais réussi à faire, même en cumulant toutes ces.
Oui, et puis de toute façon, le remettre à New York alors qu'il avait il avait déjà connu ce rôle il y a quelques années, sous le titre lorsqu'il était dans les Vengeurs, puisqu'il était professeur à Harlem.
Oui, non, mais voilà.
Oui, donc.
Après, effectivement. Un Black Panther dans la jungle, ça n'a jamais fait vendre, donc il fallait qu'il trouve autre chose.
Oui, mais à partir de là, après, bon, faut voir comment le scénariste va le prendre. Le nouveau statu quo qui s'est dessiné après, effectivement, les Doom War peut rendre le personnage donner quelque chose d'intéressant sur le personnage. Il faudrait qu'il explique d'ailleurs comment il récupère le manteau de Black Panther, le titre de Black Panther, mais bon, ça c'est autre chose. Enfin, il va falloir qu'il remette un petit peu les pendules à l'heure au niveau continuité. Enfin bon, on verra. Bon, le deuxième titre, moi qui me semble beaucoup plus intéressant et qui là me donne vraiment envie. Parce que autant là, j'avoue que Daredevil, je le suivais et sans interruption depuis le relaunch de sous l'ère Quesada.
Donc ouais, ça commence à dater.
Et oui, et là, j'avoue que cette fois-ci, ben, ils se passeront de mes services.
Dommage.
Ben, on va voir. Peut-être je vais laisser une chance en numéro 2, mais enfin, c'est vrai que la direction du titre m'a un peu gonflé, donc là, ces temps-ci, je pensais l'abandonner. Donc peut-être, on va voir. C'est, la décision n'est pas prise. Par contre, ça, si je l'arrête... je le remplacerai bien par quand même Heroes for Hire numéro 1. Dans une série qui n'a pas forcément très bien eu un destin très glorieux.
C'est la quatrième série d'ailleurs.
Et ouais. Mais c'est vrai que Dan Abnett, Andy Lanning.
Ça fait envie.
C'est pas mal. Surtout qu'ils avaient déjà travaillé sur une série Heroes for Hire auparavant, non?
La précédente. C'était pas le Mioti, je crois. Hein. Celle qui s'est vraiment pas vendue là.
Non, mais qui était pourtant assez.
Alors, la dernière fois, on était parti sur un casting très féminin. Là, on est quand même sur un casting plus testostérone. Punisher, Moon Knight, Shroud, Paladin, Ghost Rider, Iron Fist, Falcon. Bon, alors, après, il y a 2-3 femmes. Hein. Vous avez quand même Elektra, Silver Sable et Missy Ignite. En même temps.
Et Colleen Wing, non, qui n'est pas dans le.
Elle n'est pas annoncée.
Ah, c'est étonnant.
Voilà. Après, avec 3 personnages féminins comme ça, comme on dirait, c'est des nanas qu'en ont.
Oui. Et vaut mieux. Enfin, bon, si j'étais le casting masculin du bouquin, j'éviterais de les draguer sous peine de me retrouver de me faire admettre dans le club des Farinelli. Hein.
Ah ben, en même temps, le paladin, il fait un peu office de fond de cœur là-dedans. Hein.
Oui. D'ailleurs, je serais curieux. C'est aussi une des choses qui me donne envie de suivre le titre. C'est vrai que le Punisher dans un titre d'équipe, on avait vu ça dans les Marvel Knights.
Ouais, donc
qui était pas si mauvais que ça.
Et le casting, il y ressemble quand même, hein, parce que...
Ouais, avec Moon Knight qui se retrouve un petit peu dedans.
Moon Knight, Ghost Rider, Elektra, ils étaient tous les trois
que... dedans. Et puis, c'est vrai qu'un personnage comme le Punisher, qui est quand même l'honneur, enfin le solitaire par excellence, qui a une façon de régler ses problèmes, qui doit quand même un petit peu titiller une partie des membres de l'équipe, je serais curieux de voir comment ça va. Ils vont réussir à interagir et comment ils vont faire pour se retrouver dans cette bande de Gugus. Alors, est-ce qu'on est un peu, ça serait pas un peu la réponse de Marvel à Secret Six?
Il y a effectivement une logique qui semble ressembler à ça.
Surtout que Paladin était dans l'équipe des Thunderbolts de Osborn.
Exactement. Voilà. En parallèle, donc, on a quand même d'autres choses intéressantes. Chez Marvel, notamment des choses qui plus qu'intéressantes sont à noter sur Dark Tower par exemple. Sous Dark Tower, bah, The Gunslinger, voilà, ça continue, ça se vend bien et ils n'ont pas de raison de l'arrêter. Là, ce qui est le plus étonnant, c'est le nouveau dessinateur, c'est Luke Ross qui reprend la série. Donc, dessinateur plus classique, reste à voir effectivement ce que ça va donner et si on arrive à le camoufler derrière des couleurs, ce qui a quand même été souvent fait chez Marvel. Sur ce type de série, est-ce qu'effectivement Izanov aura un rôle encore plus pointu en tant que coloriste? On verra bien. Enfin voilà, moi c'est la nouvelle qui m'a aussi marqué. Mais c'est vrai que c'est quand même Heroes for Hire qui, pour moi, est l'événement du mois.
Oui, et je rajouterai un petit truc pour les fans nostalgiques, mais qui ont entendu. On peut entendre parler de ça. C'est en fait Marvel ressort l'intégralité du run de Thor de Walter Simonson sur un seul et unique volume dans sa collection des Omnibus. Alors c'est un run qui est quand même épique, imaginatif, où on se prend des claques au niveau de la représentation graphique des dieux qui est vraiment une grande saga et avec des moments qui sont complètement épiques. Et donc ce petit volume qui a je pense un très bon rapport qualité prix fait seulement 1192 pages. Alors c'est le plus gros omnibus qui ait jamais été sorti chez Marvel et il fait $125, mais bon, avec les discounts sur Amazon.com ou autre ou sur d'autres sites, on peut l'avoir à beaucoup beaucoup moins cher.
Et puis bon, rappelez-vous que les frais de port à 2,99€ sur ce genre de volume, c'est...
Oui, mais Amazon.com, c'est l'Amazon US, les frais de port sont un peu plus importants. Mais enfin, c'est quand même rentable.
Hein. Va voir sur Amazon.fr et les revendeurs concernés.
On devrait peut-être trouver à moins cher, mais il faut voir. Mais c'est vrai que ça c'est un grand, grand volume et c'est des heures de lecture...
Moi, ce qui m'a bloqué sur acheter un bouquin comme ça, c'est que ça va me tomber des mains au sens propre et que je vais avoir du mal à le lire dans mon lit parce que c'est trop lourd.
Ah, bon, c'est clair que tu le lis pas dans le lit. Ouais, il vaut mieux le mettre à plat sur une table. Mais c'est vrai que c'est un très très bel objet aussi.
Tout à fait. Donc moi, en Marvel, c'est tous effectivement que j'avais noté, vous voyez.
On passe sur DC ?
On va passer au DC. Quand même à noter, donc chez Marvel, bon, on est quand même toujours dans ce retour à un certain classicisme quand même, depuis effectivement la mise en place d'Heroic Age, et on a un peu l'impression qu'il n'y a rien qui soit là pour redynamiser vraiment le truc, et de séries qui vont vraiment être hyper innovantes. À chaque fois, on a un peu l'impression de revenir à du grand classique.
Oui.
Chez DC, le mot d'ordre ce mois-ci, ce sera one shot. Des one shot, des spéciaux, des 80 pages, des annuals.
Oui, et puis une ou deux petites choses qui passent dans les séries régulières. Au moins une qui peut valoir le déplacement au niveau graphique.
On va te laisser commencer par ça alors.
Bon, alors, j'ai repéré petite chose en série régulière, ben le Jonah Hex numéro 62, 32 pages de 99, de Greg et Palmiotti pour le scénario, mais avec Eduardo Risso au dessin. Et sur des ambiances comme ça, un peu western ou autre, je serais quand même curieux de voir ce que ça peut donner. Je pense que ça peut très très bien fonctionner.
pense qu'effectivement là-dessus on n'a pas grand chose à perdre. C'est voilà, je pense que Risso s'est fait plaisir en arrivant dessus. C'est quand même un peu pour Greg Palmiotti, le fait d'avoir ce genre de guest star, une manière de dire à DC, on a vu qu'on peut ramener avec ce titre, il faut pas l'arrêter.
Oui, puis à mon avis, franchement, j'espère qu'ils vont le publier qu'en noir et blanc. Enfin, ça c'est quelque chose qui mériterait d'être publié quasiment qu'en noir et blanc.
Il y aura forcément une version couleur, mais effectivement, on peut rêver d'une version noir et blanc à côté.
Alors, quand on voit les planches de Risso, c'est clair que la couleur est quand même parasite beaucoup, malheureusement.
Il y a d'autres épisodes, désolé, que tu avais vu comme
Oui, le Green Arrow 7. Donc de Mike Mayhem au dessin, J.T. Krull au scénario. Simplement pour une raison, parce que enfin, bon, la série Green Arrow, je ne la suis pas. Mais cette fois-ci, c'est le petit truc qui me... Quand on voit la couverture, on peut se poser la question si c'est pas le retour d'un personnage d'ici qui s'était égaré dans l'univers Vertigo pendant quelques longues années, le Swamp Thing. Donc pourquoi pas.
Voilà, puis en plus son retour avait été annoncé. Moi, ce qui m'a plus marqué, comme je vous disais, c'était beaucoup de spéciaux. Alors il y a énormément d'annuals qui sortent ce mois-ci. C'est vraiment la grande période, là, pour les fêtes de Noël, ils ont voulu faire de l'annual. On va commencer par Detective Comics et Batman Annual, les numéros 12 et 28. Et donc, ces deux annuals forment un tout, écrit par David Hein avec des dessins d'Augustine Padilla. Alors, pourquoi on en parle ? Parce que ça se passe en France ? Oui, non, peut-être. En fait, parce que dans cette histoire, surtout, on va avoir Montoya, The Question, qui va partager la vedette avec non pas un, mais avec deux Batman. Puisque vous le savez, si vous lisez actuellement Batman Legends, Bruce Wayne a disparu. Il a été remplacé par Dick Grayson. Et voilà, donc bon, on vous l'a dit, de toute façon vous le saviez, il allait revenir. Bruce Wayne est retour, mais Dick Grayson n'est pas parti. Et donc on est pour Dieu sait combien de temps avec deux Batman qui vont donc devoir collaborer avec le même personnage dans cette histoire. Et ça peut avoir un côté intéressant à voir en tant que tel.
Surtout qu'en plus, je pense que l'interaction qu'ils vont avoir avec la nouvelle Questions peut être vraiment intéressant aussi.
Tout à fait.
Donc là, moi j'avoue que c'est aussi deux titres qui peuvent être intéressants et à prendre en compte.
L'autre annual que je suis absolument sûr de prendre, c'est Legend of Super Rose annual 1.
Ouais, enfin, déjà, dès qu'il y a quelque chose qui est estampillé Legend, tu sautes dessus.
C'est pas faux en même temps. Mais là, c'est écrit effectivement toujours par Paul Levitz, mais avec Kes Giffen qui revient
au dessin.
Et voilà, donc Levitz Giffen, ça rappelle des choses à beaucoup de gens.
Levitz Giffen, c'est les John Dell à l'ancrage cette fois-ci. Donc
là, voilà, moi c'est vraiment un des titres qui m'a marqué. Un autre qui t'a marqué aussi.
Alors ouais, le Green Lantern Larfleeze Christmas Special.
Larfleeze.
Fabuleux, le personnage qui symbolise l'avarice, qui tombe sur Terre, enfin qui est exilé sur Terre, et qui tombe nez à nez avec la fête de Noël. Et qui n'a qu'une envie, qu'une idée, c'est avoir tous les cadeaux, et accessoirement, si on peut mettre la main sur Père Noël, alors là, cerise on the cake.
Voilà, donc un épisode écrit par Geoff Jones avec Brett Booth au dessin et une couverture de Gen A.
Alors, cette couverture, waouh! Scénario, waouh! Dessin, Brett Booth. Il peut faire du bon comme du mauvais. Hein. Donc,
c'est ce que j'allais dire.
C'est un peu dommage, je trouve que quand même DC avait dans son. Je pense que DC avait dans son écurie des dessinateurs qui pouvaient très franchement faire l'affaire. Parce que je suis pas forcément sûr que le côté un peu comédie que Geoff Johns semble mettre en place dans ce one-shot soit le point fort de Booth, quoi.
En même temps, j'ai envie de te dire que Gen A, c'est pas celui que j'aurais vu sur une couverture pour un truc comique.
Bon, si, mais bon, après ça.
La couverture, elle fonctionne toute seule, elle est bonne, mais effectivement, c'est pas Gen A que j'aurais mis dessus. Mmh. Enfin, voilà.
Bon, enfin, après tout, il faut. Disons. Hein, voilà.
Puis ça il sera... est quand même 20h27 et 40 secondes. Un dernier titre et je te coupe après.
Alors, j'avais deux titres, dont un Batman 80 pages Giant en 2010, donc qui est cette histoire courte, 80 pages, $5.99, tout plein de bons dessinateurs, de scénaristes, pourquoi pas. Mais la petite dernière chose qui est la plus intéressante, c'est qu'en fait, ressort toute la saga de Hush, donc le Batman dessiné par, scénarisé par Jeff Love. Et dessiné par Jim Lee. Alors, pourquoi j'en parle ? Parce que on peut pas dire qu'au niveau scénario, c'était quelque chose de mémorable. Ben, c'est en fait tout simplement parce que DC ressort cette série en hardcover, mais uniquement les planches crayonnées de Jim Lee.
Et ça, ça peut avoir de l'intérêt.
Donc 320 pages, $40. En hardcover, en oversized, juste avec les comme ça les planches crayonnées de Jim Lee, sans le filtre de la couleur ni de l'ancrage, ben je le sens vraiment preneur.